Bon, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Alors désolé de vous avoir fait monter trois étages. Hein. Franchement, là, c'est vrai qu'il pourrait y avoir un ascenseur. J'espère que vous m'excuserez. Je suis un peu malade, je ne suis pas au maximum de ma forme. J'ai ce qu'on appelle trivialement la crève. Alors vous allez vous demander comment il fait avec un temps pareil. Mais ma femme et moi, il y a quelques jours, nous faisions le tour de l'Islande au volant d'un vieux 4x4, dans un désert de glace, de neige, de lacs gelés, avec le blizzard et tout. Et je peux vous dire, en Islande, le réchauffement climatique, ils l'attendent avec impatience. Voilà, donc je vais quand même essayer d'être à peu près opérationnel. Donc je me retrouve ici pour la deuxième fois, puisqu'il y a quelques années, j'ai présenté un premier roman, « Les théorèmes du port de la Lune », publié par les éditions Mola. Roman qui m'a valu un certain succès, une belle critique et deux prix littéraires, et aussi beaucoup de belles rencontres. À cette occasion, je m'étais expliqué sur les raisons qui m'avaient amené à me mettre si tardivement à l'écriture, puisque avant, je n'écrivais pas. D'autres, certains m'ont connu à une époque où j'avais une activité de peintre, mais je n'écrivais pas. Les raisons sont simples, je peux le dire vite fait. La seule envie que j'avais, c'était d'écrire un roman sur mon enfance, mais je ne pouvais pas le faire du vivant de mon père. Notre belle réconciliation justifiait mon silence. C'est pour ça que je me suis mis si tardivement. Voilà. Alors après, j'avais envie d'écrire une fiction, mais j'ai longtemps hésité. Parce que d'une part, je n'ignorais pas que les éditeurs français, depuis une quinzaine d'années, publient en moyenne un manuscrit sur 1000. Ensuite, je ne suis pas graphomane, j'ai d'autres occupations, je voyage pas mal. Et puis, il y a un auteur connu qui disait il y a quelque temps, pour écrire, c'est simple, il suffit de s'arrêter de vivre. C'est peut-être ça dont je n'avais pas vraiment envie, surtout qu'en ce qui me concerne, il faut aussi que j'arrête de dormir. Bon, voilà. Donc, j'ai hésité. Et puis, en fin 2012, je me suis lancé, j'ai écrit « Les papillons noirs de Bénarès » pour lesquels nous sommes réunis ce soir. Alors, j'ai tout d'abord envoyé ce roman à quelques grands éditeurs, mais de façon paisible, hein, je n'étais pas, sur cette fois-ci, forcené. Il m'est revenu le plus souvent sans avoir été ouvert, j'avais mis des marque-pages dissimulés, je me doutais un peu, voilà. Il faut mieux connaître quelqu'un. J'ai eu deux éditeurs qui ont été intéressés, mais qui voulaient négocier. Il y en a un, il voulait couper le livre en deux pour faire deux romans. Pourquoi pas en quatre, et on fait quatre romans, etc. Bon. Et puis, il y a un éditeur qui est très pointu en matière littéraire et qui m'a très gentiment reçu et qui m'a dit, écoutez, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé, c'est bien fait, mais c'est très lié au voyage. Nous, on ne peut pas vous éditer. En revanche, il y a un éditeur à qui vous devriez l'envoyer, ce sont les éditions Elitis. Alors, je connaissais, parce qu'ils font de très beaux livres. Donc en janvier 2014, j'ai envoyé le manuscrit, le dossier de presse avec mon premier succès aux éditions Elitis. Et le directeur des éditions Elitis m'a dit, ça l'affiche mal, hein, mais bon, il m'a dit, écoutez, on regarde ça et on revient vers vous rapidement. Voilà, janvier 2014. Après, c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber parce que c'est devenu extrêmement difficile, tout ça, voilà. Décembre 2014, j'étais avec ma femme en train de faire un petit voyage dans le Gers. On n'est pas tout le temps au bout du monde. Et un jour, on marchait comme ça, je lui dis, dis donc, tu te rends compte, les éditions Elitis, je leur ai envoyé le manuscrit en janvier avec une enveloppe timbrée à 6 euros pour le retour. Parce que ça vaut cher un manuscrit quand même. Hein ? Et toujours pas de nouvelles. Non, je lui dis, je crois que dans quelques jours, je vais faire mon capitaine ad hoc. Parce qu'on me dit, mes copains me disent quelquefois, j'ai un côté Tintin, mais j'ai aussi un côté capitaine ad hoc. Et je vais les traiter d'ornithorynque, bachibouzouk, philatéliste. Peut-être, c'est un peu dur, je reconnais, mais bon, voilà. Eh bien, écoutez, croyez-moi si vous voulez, le lendemain à 9h15, je recevais un coup de téléphone. Ici, le directeur des éditions Elitis, avez-vous signé avec quelqu'un? Je dis non. Il dit, on peut se voir rapidement. J'ai dit oui, si vous voulez, le lendemain, 14h. Et le lendemain, j'ai eu l'accueil dont rêve tout auteur, c'est-à-dire des gens qui étaient enthousiasmés par mon manuscrit, qui le prenaient tel quel, et puis des gens simples, sympas, chaleureux, avec humour. Et ce soir, le directeur des éditions Elitis, le sémillant Xavier Mouginet, est venu me soutenir dans cette terrible épreuve. Voilà. Alors, dernier petit détail, depuis quelques semaines, nous avons eu 2 repas de travail, parce qu'il y a toujours à réfléchir sur plein de choses, autour d'une bonne bouteille, et on a fini par se tutoyer, et ce soir, on a décidé qu'on n'allait pas faire semblant, on va continuer. Voilà. Donc, je lui passe la parole. Merci.
Alors, merci d'être venu aussi nombreux, merci Bernard. Pour ce... Alors, le concept de rapidité n'est pas franchement un concept éditorial, quoi. C'est, en matière d'édition, on n'est pas sur le même temps que tout le monde. Voilà. Et c'est vrai que l'anecdote est vraie, à tel point que moi, quand j'ai appelé donc très tardivement Bernard pour le publier, je me doutais que je m'imaginais jamais qu'il puisse me répondre par l'affirmative que ce roman n'avait pas été publié, parce que je suis vraiment persuadé que c'est un roman formidable. Et donc j'étais un peu voilà, j'appelais mais sans grande conviction. Je m'étais dit voilà. Et en fait non. Donc voilà, belle rencontre. Voilà.
Et l'enveloppe timbrée à 6 euros.
Je l'ai toujours. donc je voudrais vous remercier d'abord d'être venu aussi nombreux, d'avoir bravé la température. Je voudrais remercier aussi Denis Mola de nous recevoir dans la librairie. Juste un mot sur la collection dans laquelle s'insère ce livre-là. En fait, c'est le 35e titre pour nous de cette collection qui s'appelle « Grand voyageur », qui s'intéresse qui est axé, on va dire, autour de 3 pivots qui sont le thème du voyage, un fond historique, souvent, et de l'iconographie. Alors là, ça peut être plus ou moins prégnant suivant les différents titres, mais c'est vrai que tout de suite, nous, d'emblée, quand j'ai lu le livre de Bernard, j'ai pensé qu'il pouvait vraiment pertinemment s'insérer dans cette collection-là. Donc c'est le 35e titre de la série. Donc ce qui est amusant, c'est que moi, je n'avais pas lu les théorèmes du port de la Lune quand j'ai donc lu le manuscrit. Et après, j'ai pris conscience de l'ampleur du phénomène qu'avaient produit les théorèmes à Bordeaux. Et du coup, après avoir lu Les papillons noirs de Bénarès, je me suis précipité évidemment sur les théorèmes.
Je l'ai offert.
Ah oui ? Ah oui ? Ah ben oui.
Le jour de la signature du contrat, je lui ai offert les théorèmes.
Avec une dédicace.
Et le timbre à 6 euros, il a toujours. Hein.
Et donc, j'ai trouvé ce livre admirable aussi, à tel point que je pense véritablement que les théorèmes, ça pourrait devenir un classique à étudier à l'école, parce qu'il y a tous les ingrédients pour en faire vraiment aussi un très très grand livre. Donc vous verrez, pour ceux qui liront Les papillons noirs, qu'on est dans la continuité. Je dirais que c'est même... c'est un livre assez... On est dans la continuité et c'est différent, mais à la lecture des deux, on se rend évidemment compte que c'est une construction, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train d'assister avec ces deux livres, avec les théorèmes et les papillons, à une espèce de construction de Bernard Manteau autour d'une vraie œuvre littéraire. Et ça, c'est pas toujours le cas avec les auteurs, il faut le savoir. Par exemple, nous, dans cette collection-là, il y a des auteurs qu'on a publiés qui ont fait des livres admirables, mais qui n'ont pu en faire qu'un seul, parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas cette capacité de d'arriver à créer vraiment, à se projeter. Ils ont besoin de choses différentes. Et chez Bernard, on s'en rend bien compte qu'avec ces deux titres, il y a vraiment une construction. Donc, à la lecture des papillons, on se rend bien compte que ce roman-là, il est complètement foisonnant. Quand tu disais que certains éditeurs avaient voulu le scinder en plusieurs, c'est vrai qu'il aurait pu... C'est un roman qui en contient plusieurs. Alors, d'abord... Peut-être la première question que je te demanderai, c'est de nous raconter l'histoire.
Voilà. Oui.
L'histoire.
Alors,
de ce roman.
Je vais vous lire le résumé tout d'abord, tel qu'il a été fait. Pour les gens qui ne l'ont pas lu, parce qu'il y a un mélange là de gens qui l'ont lu et de gens qui ne l'ont pas lu. Dans un court prologue, une jeune femme raconte qu'elle a reçu un colis venant d'Inde qui contient le roman journal des dernières années de la vie de son père, Igor, âgé de 50 ans, pianiste d'hôtel et photographe. Ayant choisi de tout quitter après la perte de sa femme, la passion de sa vie, cet homme a décidé de se perdre dans le voyage et les rencontres hasardeuses afin de fuir sa douleur. Il parcourt tout d'abord le Mali, où suite à un malentendu et passant pour espion, il est amené à commettre un grave délit pour se sauver. Parti ensuite visiter l'Iran des ayatollahs, il est mis quelque temps en prison suite à une infraction religieuse minime. Après un passage à Bordeaux, sa ville natale, il part en Inde dans l'espoir de revoir une femme qu'il avait photographiée pour un livre des années plus tôt et qui était le sosie de son épouse. Il la cherche dans le Shekhawati, puis l'ayant retrouvée, vit avec elle une aventure amoureuse en voyageant dans le Rajasthan. Il se rend ensuite à Benares, où elle finit par le quitter pour des raisons religieuses. Fou de douleur, il s'y installe définitivement dans une masure, rencontre un vieux médecin, lie amitié avec divers Indiens intouchables et vit une nouvelle histoire très intense avec une Indienne. Il arpente cette ville qui le fascine et joue le soir du piano devant l'improbable assemblée de ses connaissances. À intervalles réguliers, son journal s'éclaire de son passé, enfance bordelaise dans les années 50, perte précoce de sa mère, souvenirs amoureux, sa relation avec sa femme, leur voyage en Russie, USA, etc. Le récit est malgré tout une ode à la vie, à l'intensité, à l'amour, au plaisir, à la poésie, contre les culpabilités qui l'obsèdent, les religions et le fanatisme, éternel obstacle à la jouissance des hommes. L'histoire se passe en 1990. Alors moi, je voudrais dire quelques mots de mon projet. J'ai reçu il y a quelques jours une lettre d'un monsieur assez âgé qui habite dans le midi de la France, et qui me dit, presque comme un reproche, ça ne ressemble pas au théorème. Ah oui, ça, c'est certain, je ne vais pas refaire les théorèmes. Voilà. Donc, les théorèmes, c'est un récit autobiographique d'enfance qui se passe dans les années 50 et 60, avec la gouaille de l'enfant, etc. Il a eu du succès à cause de ça. Là, il s'agit d'une fiction, et c'est l'histoire d'un homme qui a 50 ans, ça se passe en 1990. Donc, ça n'a rien à voir. C'est comme comparer ou préférer la tarte aux fraises au cassoulet. Je veux dire, on peut aimer les deux, c'est pas la même chose. Alors mon but, je voulais, au travers d'une fiction, parler des pays qui m'ont passionné, faire partager au lecteur mes émerveillements, mais également, à la marge, dire ma philosophie de la vie. À la colonne vertébrale du récit, parce qu'il en fallait une, il fallait que je trouve un personnage. J'ai utilisé donc cette histoire d'un homme qui avait perdu sa femme, qui était la passion de sa vie. Alors, je vais dire une chose, c'est pour ceux qui ont lu les théorèmes, qui s'en souviennent, j'avais une mère qui était très suicidaire et peu rassurante, donc j'avais au fond de moi ce qu'on appelle une angoisse de perte d'objets. Je l'ai gardée, alors c'est atténué parce que j'ai beaucoup, beaucoup progressé, mais cette inquiétude fondamentale, je l'ai gardé quand j'ai rencontré ma femme, je l'ai toujours. Donc, et il y a quelques années, deux de mes plus proches amis ont perdu leur femme et ça m'a traumatisé, j'ai eu beaucoup de peine pour eux. Puis je me suis dit, c'est une chose qui peut arriver. Donc j'ai pensé à une histoire comme ça, un peu pour conjurer le sort. Donc c'est l'histoire, le thème de base, c'est l'histoire de cet homme qui a perdu sa femme et qui, plutôt que de sombrer dans le désespoir absolu, choisit de réagir par un excès de vie et par ouvert à toutes les rencontres hasardeuses, les aventures, etc. Il part un peu se perdre. Alors, il part d'abord au Mali. Alors, tout de suite, je vais dire quelque chose. C'est une fiction. Et bien sûr, comme toute fiction, tout romancier se nourrit des expériences qu'il a vécues, qu'il déforme, qu'il transforme, qu'il déplace, etc. Alors, la passion de ma vie, c'est le voyage, et heureusement, avec ma femme, nous partageons cette passion. Donc, on a visité maintenant 70 pays environ. J'ai donc eu le choix, et j'ai choisi de parler du Mali, de l'Iran et de l'Inde. Alors, le Mali, en effet, je suis moi aussi passé pour espion au Mali, mais je m'en suis sorti probablement autrement que le héros du roman. Je laisse du flou, probablement quand même. Bon, au Mali, j'ai voulu aussi partager avec les lecteurs ce que j'ai observé. C'est un pays dont le pittoresque est d'une intensité absolument extraordinaire. C'est l'Afrique telle qu'on l'a vue, en tout cas pour ma génération, dans les livres de l'école primaire. C'est-à-dire qu'il y a là un pittoresque absolument fou au bord du Niger, la ville de Mopti. Vous avez
les pinasses qui descendent de Gao, qui remontent de Koulikoro, tous ces gens, les Songhai, les Bozo, les Touareg, les Malinkés, tout ça. Enfin, il y a vraiment une vie d'une richesse inouïe. J'avais envie de parler de ça.
Tu le dis d'ailleurs. Tu te dis, pourquoi le Mali ? Je n'en sais rien finalement à cause des femmes torse nues de mes vieux livres de géographie. Ça, tu le dis. Enfin, ça, voilà. La petite photo, femme pilant le mil à l'orée du village de Caz. Même si c'est tout bête, on est tous comme ça, de vieilles images qui nous dirigent à notre insu. Des couleurs et des mots aussi, n'importe quoi en somme.
Voilà, absolument. Ouais. Absolument. Oui, oui, c'est vrai que les premiers chocs, d'ailleurs dans les papillons noirs, mais dans les théorèmes aussi, il y a une curiosité sexuelle de l'enfant qui, heureusement, ne s'éteint jamais. Donc, il y avait cette image des femmes torse nues pilant le mil. Oui, voilà. Et c'est comme ça au Mali. Le Mali est un pays qui, d'ailleurs, qui se visite très peu, surtout maintenant. Mais quand j'y suis allé, il n'y avait personne. Ça a été un voyage assez intense, hein, au niveau esthétique. Et puis, passer pour espion, tout ça, ce n'était pas évident. Bon. Après, il y a l'Iran. Alors, je précise quand même que ma femme et moi, on voyage tout le temps de la même façon, depuis 40 ans, c'est-à-dire que tous les deux, sac à dos, on loue des motos, des scooters, des voitures. On est tout le temps dans la plus grande indépendance. Et alors, l'Iran des ayatollahs, quand nous y sommes allés, c'était pas totalement simple. On a eu des éblouissements, nombreux, parce que Isfahan, Shiraz, Persépolis, ce sont des villes absolument fabuleuses. Sur le plan de la beauté architecturale, vraiment, ce sont des véritables splendeurs. Ensuite, c'est vrai qu'en Iran, j'ai fait la même bêtise que le héros du roman, parce que ça, c'est mon côté un peu, je dirais, je ne sais pas comment le qualifier, un peu morpion. J'ai fait une espèce d'infraction religieuse, mais je m'en suis sorti, j'ai subi un interrogatoire, mais je m'en suis sorti autrement que le héros du roman. En revanche, quelques jours après, j'ai rencontré un attaché d'ambassade de Téhéran qui m'a dit, mais vous avez fait ça sans imaginer, normalement, vous auriez dû passer quelques mois en prison. Peut-être que là, j'aurais moins bien assuré. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Voilà, ça ne s'est pas fait, donc je le raconte autrement, bien sûr. Voilà. Et puis, vous savez, Balzac disait, un personnage de roman, c'est n'importe qui dans la rue qui va jusqu'au bout de lui-même. Et si on lit bien ce livre, c'est vraiment quelqu'un qui va au bout de lui-même, du début à la fin, d'ailleurs, et dans toutes les situations. Alors, l'Iran et ensuite l'Inde. L'Inde, écoutez, avec ma femme, ça reste certainement le plus grand choc qu'on ait eu. La première fois qu'on est allé en Inde, il y a 20 ans, c'est un dépaysement très... Bon, ça a changé, mais voilà. Alors en Inde, je n'ai pas vécu ce que vit le héros. Il a tout un tas d'aventures amoureuses. Moi, j'y étais tout le temps avec ma femme, elle ne m'a jamais lâché d'une semelle. Donc voilà. Et puis, ça se termine à Bénarès. Alors, en arrière-plan... Alors, j'ai voulu, si vous voulez, un peu comme dans les théorèmes d'ailleurs, j'ai voulu que le lecteur ne s'ennuie pas. Donc, j'ai fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'anecdotes, d'événements, de rythmes. Pour l'instant, j'ai reçu pas mal de lettres. Ils me disent qu'ils ont trouvé ça haletant. Tant mieux. Voilà, c'est comme les escaliers pour venir chez Mola, c'est haletant. Voilà. Tant mieux. J'ai voulu que toutes les 2-3 pages, il se passe quelque chose. Ce sont des choses que j'ai puisées dans mes observations, des tas de petites anecdotes. Vous savez, quand on écrit ou quand on a ce projet, on est attentif et on écoute, etc. Voilà. Alors, en arrière-plan de ce roman, Les papillons noirs de Bénarès, il y a aussi un point de vue, je dirais, entre guillemets, philosophique, sur la vie, contre les religions, en ce sens qu'elles peuvent se créer des fanatismes, on le voit. Et je l'ai vu, bien sûr. Je l'ai vu en Iran. Et puis aussi qu'elles peuvent être des entraves culpabilisantes par rapport au corps, à la jouissance, etc. Voilà. Bon. Milan Kundera disait le roman, c'est une méditation sur l'existence vue au travers de personnages imaginaires. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est vraiment en toile de fond et voilà.
Oui, tu veux... Non.
Si, alors autre chose, sur le style, j'ai travaillé vraiment sur la langue, parce que pour moi c'est très important, je sais que ça puisse être quand même de la littérature. Donc, il y a le style d'ailleurs évolue, comme dans les théorèmes d'ailleurs, il évolue au fil du récit, le début est plus sec, plus dur, si on veut, et puis à partir de l'Inde, la moitié du livre, où il vit à nouveau une passion amoureuse, le style devient plus lyrique et plus flamboyant, et apparemment, il y a pas mal de lecteurs qui sont touchés par cette partie-là davantage.
Voilà. Oui, mais dès le départ, en fait, moi, c'est vrai que quand j'ai lu le manuscrit au départ, donc on a mis beaucoup de temps pour le lire, mais c'est vrai qu'on aurait pu finalement... Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est véritablement produit. Moi, j'ai lu la première phrase, qui n'était pas d'ailleurs celle qu'il y a actuellement, puisque le prologue a été rajouté a posteriori. Mais il y a une chose où on voit vraiment que dès le départ, on va être captivé et qu'il va se passer quelque chose. Et nous, en tant qu'éditeurs, ça, c'est un ravissement extraordinaire parce que on est touché tout de suite et on sait qu'on a touché quelque chose. Donc, je peux lire juste les deux premières phrases du livre. La dernière, la première phrase. Moi, je veux dire les choses comme elles sont, que la mer est sale, grise et mauvaise et que le ciel aussi, tout pareil. Déjà, cette première phrase... Elle est extraordinaire. Déjà, ça frappe, c'est percutant. On sait, voilà, nous, en tant qu'éditeurs, déjà, on sait qu'il y a un style, on sait qu'on va être captivé par un style. Avec des taches noires en plus et des coulures blanchâtres comme du violet sur les bords du cadre, quand les yeux n'y voient plus rien parce qu'ils fixent une mouette. C'est ça que j'aurais voulu, être un oiseau, tant qu'à faire d'être vivant, voler un peu. Et dernière phrase, que j'aime beaucoup, moi aussi, et elle tient en 5 mots, « J'ai follement aimé la vie ». Et là, avec ces deux premières phrases et cette dernière phrase, on est captivé. Enfin, moi, j'aurais pu presque dire, c'est pas la peine de lire le reste, je vais l'éditer. Mais voilà. Mais quand même, je me suis dit, professionnellement, ce serait voilà. Mais en fait, tout ça pour dire qu'il y a un vrai style, il y a un vrai engagement littéraire, il y a un vrai style, et c'est ce qui fait que. Ben après, quand on publie ce genre d'ouvrage, on est persuadé que ça va être une construction parce que dès le départ, il y a un style. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tous les auteurs que de frapper juste dès le départ.
Merci. 12 mois quand même hein, pour s'en apercevoir. Voilà. La dernière phrase, en fait, j'ai envie de la lire en entier, c'est « Ce matin, l'air était doux et suavement bon comme un dernier verre. Ma pauvre tête me fait trop souffrir et les mots pour écrire ne me viendront plus. J'ai follement aimé la vie. » C'est la dernière phrase. Mais alors, qu'on s'entende bien, si vous voulez, dans ma précédente activité, j'ai été pendant 15 ans, j'ai une activité de peintre, et je suis toujours passionné par la peinture, même si je me suis retiré du circuit, j'avais expliqué pourquoi d'ailleurs lors des théorèmes. Quand vous voyez, vous visitez un musée, que vous avez la salle du XVIIe siècle, vous repérez tout de suite, j'ai dit ça un jour à un ami, fais attention aux toiles de Il Caravaggio. Tu vas voir, il y a quelque chose de particulier. Et il est allé voir le musée dont on parlait, il m'a dit, oui c'est vrai, il y a quelque chose de particulier, c'est les contrastes. C'est-à-dire, je pense que dans un tableau, les ombres tiennent leur force des raies de lumière qui les transpercent. Ou on peut dire les lumières tiennent leur puissance des ombres qui les encadrent. Et dans le livre, j'estime que c'est pareil. Alors, il y en a qui me disent « Oh, c'est noir », d'autres me disent « C'est pétillant de vie ». Je crois que ce que j'ai voulu, c'est qu'il y ait des contrastes. Donc j'ai créé un personnage dont la vie est contrastée. Effectivement, dans l'enfance, il a vécu du drame, mais à chaque fois, il rebondit. Et autre chose, je voudrais dire, les gens qui me connaissent alors depuis très longtemps... on trouvait qu'il y avait une continuité, en fait. C'est-à-dire que l'enfant des théorèmes du port de la Lune, même si ça ne saute pas forcément aux yeux, est un enfant qui se défendait avant tout contre la dépression, en faisant des bêtises, des facéties, des putreries, des transgressions, etc. Mais il se défendait contre la dépression. Et l'homme adulte de 50 ans dans les papillons noirs de Bénarès, c'est pareil, il se défend contre la dépression par un excès de vie, de vitalité, un désir de jouissance, de sexe, de rencontre, d'amour surtout. Donc il y a quand même une continuité à ce niveau-là. Voilà.
Oui.
Et puis c'est le même auteur.
Et en fait, oui, le narrateur vit le voyage comme une sorte d'échappatoire. Ça, on s'en rend compte dès le départ. D'ailleurs, il dit « Faire le tour de sa prison avant que de mourir, une impérieuse nécessité de toute ma vie ». Je n'ai pas d'autre excuse pour arpenter le vaste monde. Donc ça résume pas mal de choses. Et du coup, j'ai retrouvé aussi après une citation d'un monsieur qui s'appelle Franz Bartelt. Bon, il faut le connaître, Franz Bartelt. Mais il dit cette chose à propos du voyage, qui est quand même le thème récurrent du livre. Et après, on parlera peut-être plus en détail de ce thème. Il n'est pas utile de savoir où l'on va, ni de chercher un lieu où aller. Le monde se propose à notre appétit, quand il le veut. Il s'ouvre, il dégage des perspectives, élargit le brin d'herbe jusqu'à la forêt et le coin de fenêtre au ciel tout entier. On ne voyage que dans l'abandon, sans horaire et de préférence sans retour. Et on a vraiment l'impression que c'est vraiment le thème, le cœur du sujet du livre, cette, oui. cette espèce d'échappatoire un peu à la manière de Blaise Cendrars, oui. qui fantasme beaucoup le voyage. Alors on mélange, on ne sait plus trop, est-ce qu'il a vraiment voyagé, le transsibérien, est-ce qu'il l'a pris, est-ce qu'il ne l'a pas pris. Mais on sent que c'est... Voilà. Alors est-ce que la question c'est, est-ce que voyager c'est toujours fuir?
Alors... ce que je peux dire, alors en ce qui me concerne, si vous voulez, sur l'origine de cette passion, c'est que enfant, j'étais pas spécialement ravi d'être là où je me trouvais, donc je ressentais un très violent désir d'évasion. Ça, c'est la première chose. Donc toute évasion. D'ailleurs, les gens qui connaissent ma peinture, elle fonctionne un peu comme des fenêtres qui ouvrent sur l'ailleurs. J'habitais un appartement au troisième étage qui donnait sur la Garonne. Je voyais passer les bateaux. Le capitaine, mon père, dans les théorèmes, était officier de marine. Il n'était pas un conteur, mais il avait un petit peu parlé de la Côte d'Afrique et tout ça. Donc, il y a eu tout ça, si vous voulez, qui a créé ce désir de voyager. Après, comme beaucoup de garçons de ma génération, il y a eu Tintin. Hein, ça a été très, très fort, Tintin. J'essaie de faire tous les voyages de Tintin. Je pense qu'il me reste la Lune, mais encore que... J'y sois souvent, mais bon, voilà. Et alors, est-ce que c'est fuir? Très tôt, je cite encore, excusez-moi les théorèmes, mais enfin, je dis que quand il y avait des enterrements de famille en Bretagne, j'étais toujours le délégué de la famille pour y aller, et c'est vrai, ça s'est bien passé comme ça, et pour moi, c'était une évasion formidable. Voilà. Et comme je disais, on ne peut pas toujours attendre les vraies vacances pour s'en aller, donc ça faisait office d'eux. Alors après, est-ce que c'est forcément une fuite? Je ne sais pas pour tout le monde, je ne peux pas répondre pour les autres, mais il est vrai, ça ma femme en rit souvent, qu'à Bordeaux, dans des conditions objectivement paisibles, il m'arrive d'être tourmenté, voire très anxieux. Et il n'y a pas 2 ans, on descendait dans le nord du Laos sur une pirogue à moteur, tous les deux avec un pilote, dans une rivière avec des rapides, avec des rochers qui affleuraient, et il y avait un risque objectif. Si le pilote avait une seconde d'inattention, on se retrouvait à la baille. Bon, tout ça n'était pas simple. Et bien là, moi, je suis au maximum. Je suis en pleine forme, je suis heureuse, je suis excité. Je n'ai pas peur le moins du monde. Je suis mieux que dans le tram. Voilà, c'est comme ça. C'est parce qu'il y a du défi et que j'ai besoin de défi. Voilà, alors simplement, ce goût du défi... là, dans Islande, j'ai eu l'impression que mes os commençaient à sentir la rouille. Donc, ça va se ralentir un peu, le défi. Voilà, parce que là, en tout cas, le Grand Nord, c'est fini. Mais bon.
Oui. Donc, toujours cette volonté de se mettre à la limite du danger. Et en fait, on remarque aussi que c'est une volonté de liberté absolue. Quoi. Mmh. Et de comprendre aussi les peuples que tu peux visiter, etc. Donc on se rend bien compte que ce n'est pas qu'une position romanesque, mais aussi c'est une façon de voyager, oui. pour toi. Quoi.
C'est un art de vivre, parce que, en fait, les voyages dans ma vie, ça m'occupe, je dirais, un peu à plein temps, parce qu'on a une façon de concevoir nos voyages. C'est-à-dire, par exemple, si je prends, je ne sais pas, n'importe quel, la Birmanie ou un autre, on se décide, on fait le projet, on lit des romans sur le pays, et puis j'ai une manie pour les pays un peu exotiques, hein, c'est d'essayer d'apprendre les rudiments de la langue. Voilà, ça m'amuse beaucoup. Je suis très moyen en anglais, et au lycée, les langues ne m'intéressaient pas. En revanche, là, pour les voyages, c'est une passion. Alors, mon premier boulot, par exemple pour le Mali, ça a été de rencontrer un Malien pour étudier le Bambara, pour aller juste y passer quelques semaines. Donc, premier boulot, des mois avant, je suis allé à la fac, je voyais un black, je disais, est-ce que vous êtes malien? Non, mais j'en connais un, village 4, il y a le village 4, si vous êtes malien, oui, je suis malien, je voudrais apprendre le Bambara, et pourquoi? Parce que je vais aller visiter le Mali, mais t'es fou, bon, et puis etc. Et puis j'ai étudié pendant, c'est devenu des amis d'ailleurs, hein, et là j'étudie un peu 500 mots, hein, mais pour à chaque fois, sauf dans les pays du Nord, comme l'Allemagne, la Suède, machin, où l'anglais suffit, hélas. Mais arriver dans un village birman et dire goodbye, ça me désole beaucoup. Je préfère dire Mingalaba, Chazupiwe, parce que Eux, ils sont beaucoup plus contents, et puis moi aussi. Voilà. Donc, ça prend du temps.
C'est un vrai engagement.
Ah oui, oui, oui.
Le voyage, c'est un vrai engagement.
Voilà. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est un engagement qui peut être limite parfois, page 85, où tu en parlais tout à l'heure, où tu racontes cette fameuse visite de la mosquée interdite. Donc, j'avais vaguement parlé à Akbar de mon projet de visiter la mosquée sacrée, formellement interdite aux non-musulmans, le fameux Azra. Là, tu peut-être le diras mieux que moi.
Azra Tamazoumé.
C'était ça. Sanctuaire et tombeau de Fatima, personnage important pour les chiites. Il m'avait confirmé l'interdit, mais j'avais envie de voir la coupole d'or et de me fondre dans la foule des pèlerins, en passant moi-même pour l'un des leurs. On sent qu'en effet, il y a cette volonté de s'engager pleinement dans la culture du pays, dans le territoire. Et donc ça c'est vraiment... c'est pas une position romanesque.
Le chauffeur Akbar, je dis juste la phrase d'après, parce qu'on n'avait pas le droit de conduire, on avait pris un chauffeur qui détestait les mollahs parce qu'il l'avait mis en tôle 6 fois, parce qu'il n'était pas assez pieux, puis qu'il aimait bien aussi boire un petit coup. Akbar s'était montré d'emblée très favorable. Il l'eût été pour tout autre projet du moment qu'il contournait la volonté des mollahs. Alors là, je reconnais qu'en Iran, honnêtement, c'est pas malin. Mais je l'avais dit à personne, et surtout pas à Lisa. Quand j'avais lu les guides et tout, j'avais lu que les mosquées étaient ouvertes et tout. Puis on a voyagé dans une quinzaine de pays musulmans, donc on commence à connaître un peu la musique. Mais qu'il y avait un endroit où vraiment il ne plaisantait pas du tout. Ceci dit, en général, en Iran, le sens de l'humour est moyen quand même. Hein. Et que là, c'était formellement interdit, c'était grave, et qu'il y avait des gardiens armés et qu'il fallait montrer patte blanche. Donc j'avais étudié, j'ai cherché un Iranien à Bordeaux qui m'a appris 500 mots de farsi, Maniakami farsi harmizana, Maniadous Irani dar farsi duram. Donc j'ai travaillé avec lui, il est hyper sympa ce gars. Et puis j'avais ce projet en tête. Ça renvoie aussi toujours à des trucs d'enfance. J'avais lu Voyage à Tombouctou de René Caillé qui va évoquer des souvenirs à certains. Ce gars qui avait décidé en 1800 et quelques de rentrer à Tombouctou, ville dans laquelle aucun non-musulman et non-noir n'était jamais rentré. Donc il s'était fait bronzer pendant des mois, il était grillé, il s'était déguisé, il avait appris l'arabe, il est rentré à Tombouctou. Et moi, ça, je m'étais dit, à ma petite mesure, toute modeste, je me suis dit, tiens, ça,
je vais faire mon
Mazrat Mazoumé, ça m'amuse. Donc j'avais étudié, bon, j'ai lu le Coran, et puis tout ça. Et puis quand on est arrivé en Iran... ma femme me regarde de travers, là, c'est amusant, parce que je m'étais dit, sans lui dire, je vais essayer de faire ça. Et puis, quand on est allé à Rome, qui est la ville sainte, comme je dis dans le roman, aucun être au monde ne pourrait confondre Rome avec une station balnéaire italienne. Aucun doute, je veux dire, quand on arrive, il n'y a que des dames en tchador et des messieurs avec la barbe jusqu'ici, enfin bon, bref. Et j'en ai parlé à Akbar. Il m'a permis de perfectionner un peu mon farsi, qui est la langue de l'Iran. Et alors je raconte ça, et il ne faut pas trop en dire, mais bon. Donc je me suis présenté, on a observé les lieux, tout ça, et Akbar était hyper content que je veuille faire cette ânerie. Lisa l'était un peu moins, parce qu'elle se méfie toujours, mais bon, en même temps, je suis resté un peu un sale gosse, donc je fais quand même ce que j'ai envie de faire. Et puis après avoir bien observé, il y a des touristes, on voyait depuis le pont à Aranchi, on voyait des touristes qui essayaient de rentrer, il y a des gardiens avec des mitraillettes, ils rigolent pas, c'est les pasdaranes, ils les viraient dehors. Et moi, je m'étais dit, ah oui, j'ai oublié de dire, pour aller en Iran, je m'étais laissé pousser la barbe, je m'étais acheté un petit calot, enfin, j'avais le costume complet, quoi, voilà. Donc, je suis arrivé devant la mosquée, et j'ai dit, « Man faransavi musalmun hast !» Je suis un musulman français. Et les types, la mitraillette, ils se sont laissés comme ça, et je suis rentré. Je me suis dit, ça y est, je suis rentré, j'ai vu quelque chose de fabuleux, c'est-à-dire la piété la plus intense, qui à mon avis va au-delà de l'intense. Voilà, enfin, vous lirez, vous verrez, ça va très très au-delà de l'intense. Et puis, pour passer inaperçu, j'ai circulé avec tout le monde, je me frappais la poitrine en disant des choses que j'avais apprises par cœur, etc. Et puis, il y a un moment... où j'avais quand même été repéré, j'ai pas complètement le type iranien, et il y a un mollah qui m'a mis la main sur l'épaule, et j'ai passé un interrogatoire, voilà. Mais je m'en suis sorti, avec une astuce. Par contre, lui, il s'en sort pas pareil, voilà. C'est comme ça que j'ai pu mettre cet élément dans le roman. Et c'est vrai, en revanche, que je m'en suis sorti, mais je suis resté longtemps dans la mosquée. L'interrogatoire a été difficile. Et dans la voiture, sur le pont Anchi, il y avait Akbar et Lisa qui commençaient à se faire drôlement du mouron. Il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Et Akbar se disait quand même, peut-être que je l'ai poussé à faire un truc qu'il aurait mieux fait de ne pas faire. Voilà, bon. Et puis ça s'est arrangé. Bref. Et un attaché d'ambassade m'a dit, normalement, ça coûte quelques semaines ou mois de prison. Voilà. Et là...
Donc c'est foisonnant de cette manière-là aussi, mais, le roman. Mais y a pas, on parle beaucoup de voyage, évidemment, puisqu'il y a ces trois pays qui sont en filigrane, le Mali, l'Iran et l'Inde à la fin. On n'est pas que sur un roman de voyage, j'ai envie de dire. Et l'amour dans tout ça.
Oui. C'est-à-dire que c'est comme ça que je le présente, c'est un roman d'aventure, de voyage et d'amour. D'amour parce que cet homme a dans la vie un antidépresseur fondamental qui est l'amour et le sexe. Mais les deux ensemble. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas le sexe cynique comme on peut le voir dans certains romans comme ça. Parce qu'il y a un monsieur qui m'a dit, oh, quand même, il y a des passages de sexe. Oui, mais enfin, je lui dis, c'est plutôt, me semble-t-il, joli. Puis dans le cadre d'une relation amoureuse, enfin, ça fait partie de la vie. Pourquoi cette passion s'arrêterait à la porte de la chambre? Il y a quelques passages, mais pour l'instant, je n'ai que des retours favorables. Bon, voilà. Mais alors, oui, l'amour, parce que... Mais à un moment, il y a cette phrase, je mets, qu'est-ce qui nous rachète, en fin de compte, nous autres pauvres humains, si ce n'est les sentiments? Il n'y a bien que ça et un peu de bonté par-ci, par-là, dans le meilleur des cas. Voilà, c'est le fond de ce que je pense, c'est-à-dire que toutes nos existences terrestres, en fin de compte, m'apparaissent globalement assez médiocres, bah, plus ou moins avec des nuances, mais moi j'ai un regard assez dur sur tout le monde et moi-même en premier. Mais je pense que ce qui nous transcende le plus, c'est peut-être justement les sentiments, c'est-à-dire l'amour, l'amitié, les rencontres et puis peut-être la générosité. Donc dans le roman, Igor est comme ça, c'est-à-dire qu'il a perdu un amour et il cherche à en retrouver un autre et il part chercher cette femme qui était le sosie de sa femme en Inde, qu'il avait photographiée pour un livre puisqu'il est photographe et pianiste de bar. Voilà.
Et d'ailleurs, on pensait sur un autre thème qui est véritablement abordé dans le livre, qui sont des retours sur le passé à certains moments. On pensait, après les théorèmes, après avoir lu les théorèmes, je pensais, et je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui sont dans ce cas-là, que tu en avais fini avec le thème de l'enfance. C'est-à-dire que tu avais vraiment tout dit dans les théorèmes, et c'est en ça que je disais que, en introduction, qu'on a vraiment l'impression que ça pourrait devenir un classique, parce que tout est dit, je trouve, au niveau de l'enfance, dans les théorèmes. Et pour autant... Dans le livre, tu as eu cette volonté de faire des retours sur l'enfance, sur le passé du narrateur. Quoi. Donc, quelle importance porte l'enfance, selon toi, dans notre construction d'homme, en fait?
Oui, alors là, je vais...
Sans faire une analyse psychanalytique poussée.
Voilà, oui, c'est l'essentiel de ma formation et de ma passion première sur le plan intellectuel. Mais bon, je pense que tout le monde le sait, c'est... Tous les êtres, même s'ils le contestent, ou s'ils le dénient, ou s'ils le refusent, ou s'ils le refoulent, ont été faits par leur enfance, et ils en restent porteurs toute leur vie. Voilà. Quelqu'un qui a été aimé, admiré par sa maman, moi je les repère, toute leur vie, ils ont une force en eux, une sécurité, une tranquillité, que je leur envie d'ailleurs, mais en revanche, ils n'en ont pas forcément conscience. Ça marche dans ce sens, et ça marche dans l'autre aussi. Donc, je ne pouvais pas concevoir de faire un personnage romanesque sans lui donner une enfance. Puisque cette enfance lui donne son épaisseur d'être humain. Voilà. Donc je lui ai effectivement donné une enfance qui est relativement dramatique, puisque sa mère est un peu déglinguée, il y a un drame qui se passe, on ne peut pas tout raconter, mais pas complètement, parce qu'il a un père qui est très bienveillant et tout ça. Et dans le roman, que j'ai choisi de faire avec une espèce de construction linéaire, il y a aussi de réguliers flashbacks, comme on dit maintenant, ou retour en arrière, je préfère, mais c'est vrai que, bon, voilà, flashback, c'est grâce à ce genre d'astuce qui commence à prendre la place du français. Bon, voilà. Mais il y a effectivement des moments où il repense à son enfance, où il en livre des fragments. Hein, c'est pour pas que le récit... Si vous voulez, j'ai voulu vraiment que le lecteur s'ennuie pas. Donc j'ai essayé qu'il y ait de l'intensité, qu'il y ait du rythme, et qu'il y ait donc aussi, il y a des petits moments où il y a des petits intermèdes poétiques comme ça que j'ai mis, comme des respirations, un peu comme dans les théorèmes, il y avait les théorèmes qui étaient des respirations humoristiques.
En toute impartialité, c'est réussi, puisque quand j'ai lu le livre, moi, c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas, quand on lit des manuscrits, j'avais envie d'y retourner. Voilà, au-delà de la première ligne et de la dernière, hein, donc on a lu tout à l'heure, j'avais envie d'y retourner. Et ça, c'est déjà un bonheur en soi, c'est-à-dire qu'on a dépassé le stade où on lit de manière professionnelle, en ayant des arrière-pensées derrière, en se disant, tiens, ce serait bien de l'éditer ou pas, ou etc. Et là, il y a un vrai engouement de lecteur dès le départ, quoi. Et ça, c'est génial. Vraiment, c'est un... Voilà. Peut-être que tu pourrais lire un petit passage.
Ou oui, alors c'est difficile de choisir un passage. Alors j'en ai un là. Il est en Inde, il est à Bénarès. Et il s'est installé à Bénarès, il loue une masure. Hein, et il a rencontré tout un tas de gens là, des gens simples de Bénarès, qui est une ville que personnellement j'ai adorée. Hein. Alors après là, c'est très très contestable et contesté. Ma femme est comme moi amoureuse de l'Inde, mais pas tellement de Bénarès. Elle y a vu des choses sombres que moi, je n'ai pas vues. Parce que j'étais... Je ne sais pas, voilà, je ne l'ai pas vécu comme ça. Bon, bref. Alors là, il est à Bénarès. Il a loué une masure. Il a réussi à trouver un piano, ce qui, comme je l'ai dit, trouver un piano à Bénarès est quelque chose d'un peu surréaliste. Il a fini par en trouver un d'occasion dans le quartier de Goudoula. Et alors, il raconte cela. J'inaugurais donc dès le premier soir une série de concerts dînatoires gratuits, quasi quotidiens, devant un auditoire composé de mon grand ami le distingué docteur Rakesh et de Kapoor, qui venait toujours accompagné de collègues pédaleurs de rickshaw. Les rickshaws, c'est les vélos-taxis. À discrétion, sur des tables basses, je disposais des plateaux de friandises indiennes à base de coco, du whisky, des cigarettes et bien sûr du thé chaud. Très vite, mes amis vinrent plus nombreux et Rakesh me présentera une patiente à lui, veuve quadragénaire qui avait entendu la musique depuis la ruelle et souhaitait se joindre à nous mais n'osait s'approcher. Abaya avait un visage agréable et doux, elle se tenait un peu à l'écart, souriante et toujours bien habillée d'un sari et d'un foulard rose qu'elle ne quittait jamais. Je soupçonnais Rakesh d'une intention sympathique en me la présentant. Parfois, alors que je jouais, alternant le peu de classique que je maîtrisais et des improvisations de blues ou de la musique d'hôtel, je m'élevais par l'esprit et observais la scène de haut comme collée au plafond. S'offrait alors cette scène étrange, assis sur des coussins, des Indiens au visage buriné de travailleurs, simplement vêtus, un médecin digne, barbe blanche et turban impeccable, une femme bien mise dans un fauteuil près du feu, toutes ces personnes écoutant un Français de 50 ans qui jouait des airs connus, le chant de la vie, et se distrayait ainsi de sa douleur d'être seul. Puis, mon esprit s'élevait encore et le toit de la maison disparaissant, ma vue englobait alors dans un même champ tout Varanasi noyé de nuit cendreuse, les serviteurs du feu s'affairant à délivrer les cadavres de leur enveloppe charnelle sur le bûcher des crémations. Et moi, petit pianiste désespéré, faisant de ses doigts danser les gnossiennes de Satie ou les valses de Chopin, et la musique matérialisée en de belles volutes colorées se mêlait aux fumée des cadavres en des panaches triomphants. Il me semblait alors que tous ensemble, nous touchions là quelque chose de religieux, comme on peut le dire de l'ivresse ou de l'amour, nous étions la jeunesse du monde et la fin des temps côte à côte. Un passage donc de sa vie à Bénarès.
Un autre passage peut-être
Pas sur Bénarès.
Sur le...
Alors je dois dire quand même qu'il y a dans le livre... Bordeaux est son port d'attache. Bon, on l'a compris, ceux qui ont lu les théorèmes, que je suis un amoureux de ma ville, hein, qui est, c'est bien connu, la plus belle ville de France après Paris. Mais même dans les guides à l'étranger, j'ai vu, hein, souvent, c'est Lyon, Bordeaux, Bordeaux, Lyon. Voilà. Donc, et alors, c'est son port d'attache. Donc, il revient régulièrement à Bordeaux, après le Mali, après l'Iran. Ensuite, il n'y revient plus. Il y a quelques pages sur Bordeaux. À Bordeaux... il a un ami qui le reçoit, il s'appelle Vincent. C'est pareil, si vous voulez, les personnages. À Bamako, il rencontre un ami. Et cet ami, je pense que dans les gens qui vont le lire, il y a quelqu'un, mon frère aîné, qui va dire « Ah tiens, ben celui-là, je le connais. » Je me suis inspiré de quelqu'un que j'ai rencontré à Bamako, qui est lié à mon frère aîné par des vagues liens familiaux. Donc, vous voyez, je me sers de choses diverses, quoi. Voilà. Alors, il y a des pages sur Bordeaux, quelques-unes. Peut-être je peux en lire une, rapide. À la fin de ça, donc, il est à Bénarès, il a des souvenirs qui remontent. Et il dit « S'il n'était trop tard, j'emmènerais Abaya dans mon pays, quitter cette ville lugubre et prendre avec elle une pinasse d'Arcachon, frôler les balises du Grand Chenal et s'insinuer dans les steilles de Gaïnion jusqu'aux cabanes Tchanquées. Elle serait émerveillée de ces fantomatiques maisons juchées sur leurs pilotis au milieu des flots calmes. Immobiles entre leurs échasses de bois, nous écouterions le murmure de l'onde. Nous irions naviguer ensuite à marée basse sur les chenons qui courent entre les parcs à huîtres comme des radicelles de mer. Chaussée de raquettes en bois, je lui montrerai sur la vase comment avec du gros sel on fait remonter certains coquillages pour les saisir de la main. Je lui expliquerai le miracle des huîtres. Puis, voguant à nouveau dans le flux chargé de varech flottant, nous remonterions vers les petits ports charmants de Biganos, où se cachent les cabanes de pêcheurs, blottis sous les pins comme des petits moineaux. Nous respirerions l'air parfumé de sel et de fraîche liberté, tête levée dans la brise de mer. Nous mangerions, chez Huguette, des huîtres du banc d'Arguin arrosées d'un clairet glacé. À peine au-delà des villas, dans la forêt du Truc Vert, nous ferions l'amour, cachés dans les fougères, comme jouent les enfants. J'aurais sûrement des hoquets de mémoire, des jours anciens avec Claire. Dans ces lieux si simplement beaux qu'à nos retours de voyage, nous nous disions que nous avions, sans aller loin, les paysages les plus attachants du monde. Mais peut-être n'avons-nous pas de meilleure raison de partir que le plaisir de revenir. C'est vrai qu'un clairet glacé, là, je sens que ça associe beaucoup de choses dans l'esprit des gens.
Le prochain roman, est-ce qu'on n'en a jamais parlé? Prochain roman, quel thème? Est-ce que tu as des choses en tête?
L'Islande, ça s'appellera Glagla.
On va changer le titre.
Honnêtement, je ne sais pas. Écrire, c'est un plaisir, mais ce que les lecteurs n'imaginent pas, c'est tout ce qu'il y a autour, tout ce que ça représente de stress. Surtout que moi, je travaille quand même pour essayer d'être dans le coup. Hein, voilà. Donc, c'est beaucoup de stress. C'est quand même assez ingrat. Surtout maintenant, il y a 30 ans, c'était plus facile. Donc, je ne sais pas. Je vais en tout cas prendre peut-être quelques vacances d'écriture. Et puis quand j'écris, j'écris vite. C'est ça. C'est-à-dire, je mets longtemps à me décider, j'écris vite. Je l'écris en quelques mois, mais par contre, je suis tout le temps dedans. J'ai un dictaphone sur la table de chevet, je me réveille, j'ai des idées, tout ça.
Mais il y a une vraie volonté de choisir le mot juste, de revenir sur une expression 40 fois avant de prendre la bonne. Il y a un vrai travail d'écriture.
Sur la langue, oui, voilà. J'essaie de travailler sur la langue.
Et ça aussi, c'est assez rare. Il y a pas, il y a un auteur qui est présent dans la salle, là, que j'ai publié aussi, qui se reconnaîtra, qui fait ce même travail pointu de choisir le mot juste. Et ça, on a, en tant que lecteur, on n'a pas forcément toujours conscience de ce que ça représente de temps passé. Voilà,
Il est vrai que la plupart des lecteurs, la majorité des lecteurs en France s'intéressent à l'histoire. Bon, d'où le succès de certains romans qui n'ont que l'histoire pour eux. J'en ai lu un par expérience il y a quelques semaines, en Islande justement, et je m'intéresse à la langue, c'est-à-dire que j'aime surtout la littérature. Ça n'empêche pas qu'il peut aussi y avoir une histoire, c'est ce que j'essaie de faire, dans celui-là et dans le précédent. Je préfère quand on essaie d'avoir les deux. Mais après, il y a des romans qui sont purement littérature, comme Julien Gracq. Bon, là, il y a peu de gens qui prennent du plaisir. C'est savoureux, mais ça n'est qu'un travail sur la langue. Moi, ce que j'ai envie de faire, et ce que j'essaie de faire, c'est de faire les deux, de faire une histoire avec un rythme haletant, qui prend le lecteur, qui l'emmène, et en même temps que ce soit travaillé. Voilà. Je disais, j'ai lu il n'y a pas longtemps un livre donc, de ces gens qui ne s'intéresse qu'à l'histoire, et j'ai été un peu affligé par certaines phrases mais c'est vrai que la plupart des livres qui se vendent beaucoup, il n'y a pas de travail sur la langue.
Pas sur cette recherche. Mais, écoutez, merci d'être venu.